première.
Oui.
Oui, oui.
22h, 23h. Par oui dire.
Pascal Tison.
Dis-moi. Par oui dire.
Par oui dire.
La loi n'a donc pas proscrit la couche des princes et des rois.
Effectivement, c'est écrit de façon étrange. En fait, on avait envie d'évoquer le côté oral des mots, des langues. Donc, on voulait l'écrire en phonétique. Et puis, finalement, on a trouvé ce code phonétique qui nous paraissait incarner voilà, ce qu'on voulait représenter et qui était joli en même temps.
Il y a deux palais ici, un hors-lieu, un hors-loi. Si loge et si souscrit et sujet et foi, je ne doute pas. Allô.
L'idée, c'était évidemment de parler des langues. On est reparti de ce mythe de Babel qui évoque évidemment la dispersion des langues sur le globe, qui évoque la pluralité des langues aussi, évidemment qui évoque aussi cette tour, donc cette notion un peu de domination, d'orgueil qui existait dans ce mythe sur l'idée d'une langue unique. Ces différentes thématiques font arriver dans cette exposition, de manière plus contemporaine évidemment, par une série d'artistes nationaux et internationaux qui vont nous parler de ces langues, souvent liées à une histoire personnelle, mais qui a valeur universelle.
Babel, les barrières de l'antique. Alice Elp, 31 boulevard de Waterloo, jusqu'au 14 décembre. Babel.
Avez-vous des souvenirs de l'Expo 58 ?
Absolument.
Cette place de Belgique.
Les Kaliskis.
Mon œuvre.
Quel est votre cinquième ?
C'est une garden party très contemporaine.
Merci d'être là.
Aschenbach, Lino Polegato.
Dans mon histoire de ma peinture.
Aleschinski.
Authentique, me tento, tententententum, stélie.
Le monde invisible.
On va retrouver différentes pistes dans cette exposition, notamment l'idée d'apprentissage d'une langue, de sa transmission, de l'affiliation d'une génération à une autre de cette langue, de son hybridation aussi, par justement les déplacements sur ce globe, et aussi de son extinction parfois, de ces diverses langues qui disparaissent ou tentent à disparaître.
À la Verrière Hermès à Bruxelles, au 50 boulevard de Waterloo, jusqu'au 8 novembre, les barrières de l'antique.
Camille est venue très vite en me proposant, en me disant j'aimerais bien construire un labyrinthe dans l'exposition dans lequel je viendrai poser des marqueteries, lui qui l'a réalisé, des marqueteries, et en fait on se baladerait comme ça dans ce labyrinthe qui lui représente symboliquement le rapport avec sa famille, son père et sa mère. Vous savez peut-être que le labyrinthe est très lié à des questions intimes, puisque le labyrinthe, historiquement, était la métaphore de l'élévation spirituelle. Vous voyez, le labyrinthe, c'est l'endroit où on rentre, on se perd et on ressort au même endroit. Et il y a toujours cette idée de, c'est un cheminement où en fait on n'a pas avancé, puisqu'on a beaucoup marché, mais on revient au même endroit. Et en fait, l'idée du labyrinthe, la métaphore du labyrinthe, c'est qu'on croit revenir au même endroit, mais en fait on a évolué dans la tête. C'est aussi le passage à l'âge adulte, etc. Et Camille, qui est un garçon très romantique, qui assume ce côté romantique, très émotionnel, parfois un peu nunuche, comme il dit, ou un peu, voilà, mais il l'assume et il a voulu faire une exposition en hommage à son père et à sa mère, puisque donc son père est charpentier de marine et sa mère est artiste, elle est sculptrice, dans un autre champ, elle n'est pas vraiment dans l'art contemporain, enfin pas dans les mêmes circuits que lui, hein. Et il a voulu travailler autour de ça sur un passage initiatique qui fait qu'on voit les deux côtés entre le père et la mère, hein, on doit choisir un peu ces deux camps, et puis un cheminement qui amène jusqu'à cette œuvre finale, qui est un peu son minotaure dans le labyrinthe.
Babel, les barrières de l'antique, par Thierry Genicot. Le monde invisible est soutenu par la Fédération Wallonie-Bruxelles, secteur des arts plastiques.
Alors la langue aussi, comme vecteur de domination, on va retrouver deux artistes qui vont nous parler de ça, et aussi la langue comme imaginaire, c'est-à-dire nouveau type de langue ou d'invention d'autres langues possibles. Voilà, ça c'est un peu les trois grands courants de l'exposition, c'est-à-dire cet apprentissage, cette transmission, la langue comme vecteur de domination et cette langue qui peut être imaginaire.
Babel, avec Catherine Anquinet, Mélanie Rainville, Marc Buchy, Myriam Prevost.
Il y a des objets en bois qui sont comme une sorte de mobilier, qui sont faits avec du tulipier. Et il y a également une couverture de déménagement qui est un peu déclinée, qui est au sol, mais qui sert aussi un peu d'assise. Et il y a un jeu de cartes, avec des cartes en bois, des cartes en papier, une petite radio et quelques éléments pour faire de la musique. Et sur le côté, il y a une photo où on me voit de dos, en train de porter cette installation empaquetée. Voilà, pour donner un indice sur la nature nomade de cet objet.
Mélanie Rainville.
Quant à Myriam Prevost, on est plutôt du côté des langues du futur, éventuellement. En fait, le travail de Myriam Prevost fait un pont entre le passé, parce qu'elle nous parle de la mythologie grecque, de la figure de Tirésia, et le futur, éventuellement, parce qu'elle nous parle de la langue de l'oracle. Donc, ce serait plutôt dans la catégorie visionnaire. S'il fallait étiqueter le travail de Myriam, on le placerait.
Alors la radio, qu'est-ce qu'elle diffuse, la radio ?
La radio, elle ne diffuse rien au moment où on se parle. Parfois, je l'utilise lors des performances parce que c'est une installation qui est inerte mais qui a vocation à être activée. Et quand je fais mes performances avec cette installation, je dirais que c'est un peu mon bâton de sourcier. Je m'en sers plutôt pour être à l'affût des ondes, des spectres sonores qui seraient dans l'espace. Donc elle ne diffuse pas vraiment une station comme la station de la RTBF par exemple. Elle diffuse plutôt une sorte de bruit blanc ou de bruit rose dans lequel les spectateurs peuvent interpréter des messages.
Mobilier qui a l'apparence de s'adresser aux gens de petite taille ou aux enfants.
Ça s'adresse à tout le monde, à vrai dire. Après, quand j'ai conçu cet objet, j'avais comme contrainte de faire un mobilier qui soit le plus léger possible et le plus transportable possible. Donc c'est pour ça aussi que les échelles sont assez réduites.
On a invité dans le cadre de cette exposition, il y a aussi tout un programme annexe. Il y a justement une séance d'écoute autour des différentes langues qui sont parlées à Bruxelles. Bon, pas simplement le bruxellois, mais cette diversité justement dans une ville où il y a de nombreuses langues qui sont parlées. Et donc ce n'est pas essentiellement sur le bruxellois, mais sur cette justement ouverture à de nombreux horizons. Mais c'est vrai que le bruxellois fait partie d'une de ces langages en voie d'extinction, puisqu'il est de moins en moins pratiqué.
Oui, car il s'agit d'une radio avec une antenne, comme sont apparus ces engins après la guerre 40, amenés par les Américains. Ça s'appelle les transistors.
Oui, c'est un petit transistor. Alors celui-ci, il n'est pas très vintage, parce que c'est, je pense, un transistor chinois assez récent. Je m'appelle Myriam Prevost. Je vis à Bruxelles. Pour moi, ça m'évoque un peu ce que j'essaye de fabriquer avec cette installation. C'est un lien entre un émetteur et un transmetteur. C'est-à-dire que la personne qui est assise en face de moi, c'est elle qui choisit un peu les thématiques, les orientations du champ que je vais donner. Et moi, je considère que cette personne est quasiment comme une source. Et que moi, j'ai presque un statut de transmetteur. Et que ma voix, elle sert uniquement à faire circuler des chansons qui sont déjà présentes, ou des images déjà présentes.
La loi n'a donc pas proscrit la couche des princes et des rois.
Émetteur, transmetteur, mais qui est récepteur ?
Alors les récepteurs, c'est à la fois le public qui est témoin, mais c'est à la fois la particularité aussi du statut pour moi du musicien ou même de la personne qui est en face, c'est-à-dire qu'on est à la fois émetteur et à la fois récepteur. On émet et on reçoit ce qu'on émet.
Il y a de palais ici, un hors lieu, un hors loi.
Et ce sont des cartes à tirer ? Non, ce sont des cartes avec des textes, avec des mots.
Ce sont des mots. Il y a deux formats de cartes, mais qui participent à la même performance. Ce que j'appelle des objets, c'est-à-dire la personne qui s'assoit ici peut choisir un objet de prédiction. C'est des thématiques assez vagues. Voilà, il y a par exemple fortune et déroute ou royaume et mémoire. Une fois que la personne a déterminé un objet, je vais demander à cette personne de se concentrer, de formuler en elle-même une question. Et une fois qu'elle s'est formulé cette question, elle va tirer des petites cartes où il y a des mots que moi j'ai sélectionnés, où j'ai déterminé un lexique. Et ces mots, ils vont me servir de balises. C'est-à-dire que je ne sais pas ce qui va être chanté, mais par contre, j'ai quelques balises. Et ces balises, ça peut être des verbes. Par exemple, il y a le verbe conjurer, avouer, promettre. Ça peut être des figures. Il y a la figure de l'absent, du parent, du faussaire, de l'allié, de l'assemblée, de l'État. Mais ça peut être aussi des lieux, comme ruines, vaisseaux, chambre, demeure, et puis des accessoires. Ça peut être un emblème, une relique. Voilà, c'est des termes que j'ai choisis pour leur nature un peu intemporelle. Donc voilà, ça peut tout autant évoquer des préoccupations contemporaines que des termes qui pourraient évoquer des fables ou des récits plus anciens. Ce jeu de cartes, il est un peu pensé dans l'idée de laisser un peu trouble. Est-ce qu'on parle du présent, du passé ou du futur ?
Il y a un peu du yiking dans cette installation ?
Il y a un peu du yiking, il y a un peu de cette culture du hasard ou même de des mancies qui peuvent exister. Après, moi je viens plutôt de la musique. Je viens plutôt de la musique improvisée. Quand on fait de la musique improvisée, l'improvisation, c'est pas quelque chose qui jaillit comme ça de manière spontanée. En réalité, ça se muscle, ça se travaille. Une manière de muscler l'improvisation, parfois, c'est avec des outils, comme le yiking, comme l'a fait John Cage, ou d'autres compositeurs, qui ont utilisé aussi des formules ou des outils divinatoires pour choisir des directions de composition. Il y a un peu de yiking là-dedans.
Un banc d'écoliers s'ouvre. Lourdement, il suinte. Et dedans, deux petits souliers rouges, lumière blafarde à peine, fantôme assis, présence de l'enfance. Et puis un chointement doucement, doucement l'eau coule.
Si loge et si souscrit, et sujet et foi, je ne doute pas à l'eau.
Je suis mon guide, cage d'escalier froide, lumière ça et là, grande obscurité. Mémoire, rêve, fantôme. À vous écouter, je pensais aussi à la chiromancie. Je pensais aussi au théâtre, même au théâtre de l'intime. Je pensais au récit, au conte, presque à la psychanalyse.
Ouais, c'est clairement par ces endroits-là que ça passe. Récit, conte, parce que là, dans l'exposition Babel, moi, ce qui m'intéresse de travailler, c'est aussi la littérature que peut produire l'oralité et comment cette littérature-là, elle a traversé les fables, les contes. Et la psychanalyse, oui, ça, finalement, les figures que moi j'emploie, c'est des figures relais, c'est-à-dire que c'est des figures qui existent déjà dans notre imaginaire collectif. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elles sont, c'est des figures qui sont polysémiques, c'est-à-dire que si j'emploie la figure du parent ou du faussaire, je vais charger ces figures-là d'une certaine manière et vous allez les charger d'une autre manière. Ce que je trouve intéressant, c'est justement la possibilité de jouer dans ces battements-là, dans ces écarts. Et après, l'intime, c'est théâtre de l'intime. Je sais pas exactement ce que vous nommez par là. Peut-être je sais pas si vous pensez à quelque chose en particulier.
Non, un homme venait à vous écouter à la mémoire. Un metteur en scène qui s'appelle Vargas. Ce nom vous dit quelque chose?
J'aime bien faire le diable. C'est un archétype qui est connoté assez négatif, mais je crois que c'est important de se relationner avec cet archétype. C'est pour ça que j'aime le faire. Et c'est un personnage très présent dans le labyrinthe, parce qu'il y a beaucoup d'acteurs qui se cachent ou qui sont dans le in the dark.
Dans l'obscurité.
Dans l'obscurité. Oui, il y a beaucoup qui sont dans l'obscurité. Et le diable, c'est assez présent. C'est un personnage qui joue beaucoup avec le visible et avec le spectateur. Alors c'est chouette de le faire.
Qu'est-ce que ça vous fait de danser avec les spectateurs?
C'est très intéressant parce que la manière de danser de chaque personne est très différente. Il y a des personnes qui veulent être très près. Il y a d'autres personnes qui ne veulent presque pas danser. Alors avec celles personnes qui ne veulent presque pas danser, je dois trouver une manière de les faire danser. Parce que je crois que le diable, il ne force pas les personnes à faire quelque chose. Il les fait. Il les fait danser. Et c'est ça qui est très intéressant, parce qu'on doit être vraiment, au moins je dois être vraiment personnel dans ce travail. Et je dois chercher de quel lieu je peux prendre la personne, de quelle part. Et je dois être très très attentif aux petites réactions, parce que si je vais au début de la scène trop loin, si je force trop, si je croise une limite, les personnes, après, ils ne sont plus prêts à danser.
Là, comme ça, sur l'instant, non. Désolée. Mais après, il y a...
Qui a la fonction de faire un théâtre où le spectateur est seul.
OK.
Et fait un voyage. Ça vous dit quelque chose?
Pas ce nom-là. Après, par contre, je travaille aussi avec le spectacle vivant. Les fonctions du théâtre m'intéressent beaucoup. Et après, même le titre que j'ai choisi pour cette installation, qui s'appelle « Trois fois Tirésia ».« Trois fois Tirésia ». Tirésia, qui était donc un oracle dans la mythologie grecque. C'était l'oracle de Thèbes. C'est lui qui a annoncé le destin funeste d'Œdipe. Et trois fois parce que c'était pour moi aussi des références à la poésie formulaire grecque, où dans l'oralité, en réalité, il y a une technique, il y a des systèmes de formules, quasiment des combinaisons mathématiques qui permettent d'avancer dans le récit, de produire des événements. Et voilà, donc ça fait lien entre, on va dire, tragédie, Grèce, théâtre, tout ça est lié aussi dans les fonctions un peu cathartiques de cette performance.
Que je dois toujours répondre à la manière du corps du spectateur. Je dois lui suivre sans que lui se rende compte. C'est un jeu.
Puis-je enregistrer ce que vous avez chanté?
Alors, exactement ce que je fais dans la performance, non, ça c'est pas possible, parce qu'il y a une sorte de protocole et il faut qu'il y ait des témoins. Et j'y tiens, et aussi parce que un de mes souhaits, c'était de créer des chansons qui n'existeraient jamais ailleurs que dans le temps présent. Donc je vais pas vous chanter une chanson parce que elles sont par nature éphémères et périssables. Après, je peux chanter une autre chanson à moi qui est un peu, on va dire, de la même couleur.
Quel est votre avenir ?
Comme actrice. Je fais aussi du cinéma. Alors mon avenir plus près, la prochaine semaine, c'est du cinéma. Et bon, je fais aussi du théâtre en Suisse. Alors ça serait dans 2 semaines. Et après, je suis un freelancer. Alors les choses ne sont pas claires.
Est-ce qu'on est du côté de la linguistique ? Alors, moi, je suis ni linguiste, ni ethnologue, ni ethnolinguiste, mais artiste. Et du coup, la façon que j'ai de travailler, c'est de me saisir des outils qui existent dans d'autres catégories que juste le monde de l'art. Donc, je travaille souvent un peu à la lisière, comme ça, entre art et monde réel ou monde non artistique. Et je m'empare de ces outils pour créer, pour former des œuvres d'art. Donc, je ne me considère absolument pas comme linguiste, mais comme artiste qui se saisit d'outils qui ne sont pas les siens pour générer des œuvres d'art.
Marc Buchy se trouve vraiment dans une partie de l'exposition où justement il y a toute cette idée d'apprentissage, de transmission de la langue, parfois de difficulté d'apprendre une langue, d'aller aussi à la rencontre de l'autre lorsque l'on apprend ces langues, et in fine de l'oubli de langues que l'on ne pratique plus, ou de l'extinction de langues par différentes voies possibles, ça peut être des causes écologiques, des causes politiques et autres. La mezzanine où se trouve l'œuvre de Marc Buchy va générer ces différentes réflexions, surtout sur cette idée d'apprentissage, de transmission, voire d'extinction.
Alors sur ce tableau noir comme on trouve à l'école, il y a à la craie des mots, des colonnes, de quoi s'agit-il ?
Ce tableau, c'est une des formes disons finale, pas forcément la plus aboutie. Il y a différentes œuvres qui sont sorties de ce projet qui s'appelle Kagualmagou. Et ça, c'en est la forme performative. Donc j'ai été apprendre une langue en voie de disparition en Colombie, dans le sud-est de la Colombie, dans la communauté Misak. J'ai appris le Namjik. Une des formes de l'œuvre, c'est que je donne moi-même un cours de cette langue au public du centre d'art. Je vais commencer en effaçant ces notes. C'est comme si on rentrait dans une salle de cours. Parfois, quand on est enfant, le professeur a déjà écrit ses notes de mathématiques ou peu importe, et puis les enfants les lisent. Donc là, au début de l'exposition, j'ai écrit ces mots de façon très organisée, les chiffres, les formules de politesse, etc. Je vais venir les effacer et je vais les donner un cours. Donc à la fin de cette performance, le tableau sera bien moins organisé puisque c'est très vivant. Enfin, je fais des flèches, etc., comme si je donnais un cours magistral. Et donc la forme des écrits vont complètement changer pendant la performance et à la fin, et puis ça restera en état comme ça. Je m'arrête une fois que le tableau est plein, en fait, que j'ai plus d'espace pour écrire et mettre des notes. L'espace du tableau devient un marqueur temporel aussi. Ça dure un quart d'heure, donc j'aborde les notions assez simples de prononciation, de formule de politesse, etc. Il y a un peu l'histoire de la langue au début aussi.
Oui, justement, un mot sur cette langue, qui la parlait ?
Elle n'est pas éteinte, elle est classifiée comme en voie de disparition. Alors, ce n'est pas non plus la plus en danger d'extinction en Colombie, parce que c'est un pays où il y a 90 communautés indigènes qui ont toutes des langues propres. Et moi, je me suis rapproché de la communauté Misak, qui vit à Silvia. C'est dans le, pour ceux qui connaissent la Colombie, c'est dans le sud-est, une petite ville de montagne. Et ils habitent dans toute une vallée, en fait, assez en altitude. Et c'est des gens qui font des cultivateurs, en fait. Voilà. Et il y a environ 20 000 locuteurs qui parlent cette langue. Et c'est une communauté tout à fait organisée. Il y a des écoles pour les enfants, il y a un hôpital, etc. Mais la langue est quand même mise en danger par des forces plus globales. Et c'est des gens qui sont complètement à la marge de la société. Il n'y a pas de soutien de la part du gouvernement colombien. Et les autochtones ne sont pas du tout valorisés par l'État. Donc c'est de l'autogestion, autosuffisance, etc. Et ils font du commerce. Ils viennent dans les grandes villes, à Cali, où j'étais en résidence. C'est là que j'ai rencontré les gens qui m'ont donné ces cours.
Une œuvre de Lawrence Abu Hamdan nous parle de la langue en tant qu'outil de répression, parce qu'en fait, c'est une œuvre de 2012 qui réfère à un test de la voix qui est passé aux demandeurs d'asile ou sans papier afin de déterminer si leur pays d'origine qu'ils ont déclaré est juste ou non. Et donc, cette œuvre est concentrée autour d'un ensemble de Somaliens qui ont vu tous leurs demandes refusées. Voilà, donc cette œuvre-là, par différentes stratégies, aborde la question de la langue comme jeu de pouvoir.
Mélanie Rainville.
Oui, bien sûr. Oui, oui, tout à fait. C'est vraiment un problème tout à fait actuel. Et puis, ça aussi, c'est un autre élément qui nous a donné envie de développer ce projet, parce que la question des langues, l'espèce d'hégémonie de l'anglais qui essaye de faire un pont entre toutes les cultures, c'est quelque chose dont il faut parler. C'est pas quelque chose qu'il faut taire. C'est un phénomène qui a un impact sur la manière dont on investit les langues, sur la société en général. Donc oui, et puis il y a cette question-là, donc de l'anglais, mais il y a aussi la question des gens qui maîtrisent pas les langues ici à Bruxelles. Les langues parlées généralement, et puis c'est quelque chose à quoi on ne peut pas faire abstraction.
Oui, voilà, il y a des forces globales qui mettent en danger cette langue, donc il y a le départ des jeunes qui vont après vivre dans les grandes villes pour chercher du travail ou pour faire des études et qui ne reviennent pas forcément. Et puis même, tout le monde a un smartphone, tout le monde utilise Facebook, enfin, il y a vraiment une globalisation hyper intéressante sur place de se rendre compte que voilà, il y a les mêmes modes de communication et l'anglais, ça reste la langue sur les plateformes Internet. Donc voilà, il y a des disparitions comme ça de génération en génération. Et c'est des choses que je ne pensais pas sentir directement, parce que c'est l'effacement d'une langue, la disparition d'une langue, c'est comme sur des générations et des générations. Et moi, j'ai eu deux professeurs, des adolescents, José qui avait 18 ans et Lucie qui avait 20 ans. Et entre eux deux, il y avait certains mots qui n'étaient pas les mêmes ou qui disparaissaient, ou ils me disaient « Ah, mais ma mère connaît ce mot, mais moi, je ne l'utilise plus », et ils me disaient un mot d'espagnol à la place. Donc moi, comme je prenais mes notes de cours, comme si j'apprenais, j'écrivais en espagnol, mais ne parlant pas espagnol, au début, je ne m'en rendais pas compte. Et puis en relisant mes notes chez moi, je fais « Non, mais ça, c'est un mot d'espagnol ». Et je posais la question à l'autre, et il me disait « Non, non, maintenant, on dit verde, on n'utilise plus le mot traditionnel, ça, c'est de nos grands-parents ». Enfin, voilà, je ne pensais pas être confronté directement à ces mots qui disparaissent. Bon, c'est juste des micro-exemples, mais je trouvais ça assez saisissant de le voir en passant. Moi, j'ai passé 3 mois seulement sur place, donc c'est un temps assez court, mais j'en ai fait l'expérience par la discussion.
Marc Buchy.
C'est une langue précolombienne, effectivement. La langue Namjik qui correspond à la famille des Kokonukan, c'est une famille de langues composée de 3 langues, dont 2 qui sont éteintes, et il n'y a que le Namjik qui a survécu. Il y a le Totoro, le Kokonukan, qui est aussi le nom d'une langue, et le Namjik, et il n'y a que le Namjik qui est encore parlé.
Pas d'écriture.
Il y a de l'écriture, si, il y a de l'écriture. Ouais.
Et quel alphabet ?
Il y a un alphabet traditionnel qui m'a été transmis par José, donc c'est très dessiné, etc. Ça correspond à des mots et puis des lettres. Mais maintenant, il y a tout à fait notre alphabet qui est utilisé. Donc j'ai toutes ces notes qui m'ont été transmises, mais je n'ai pas appris l'alphabet traditionnel, puisque le but c'était quand même aussi de communiquer sur place avec les gens. Donc ils n'utilisent plus cet alphabet traditionnel, qui est basé aussi beaucoup sur des croyances. Ils m'ont emmené sur des sites culturels avec des rochers gravés de lettres, etc. Mais au quotidien, on utilise l'alphabet, tout à fait. Et il y a 8 lettres que nous utilisons et qu'ils n'utilisent pas, et ils ont une lettre très particulière qui est ce O barré, qui ressemble à une lettre grecque, qui a une prononciation très gutturale, qui se dit « go », qui veut dire « oui », et qui est dans beaucoup, beaucoup de mots, qui remplace quasiment notre O, en fait. Voilà, donc ça, c'est la spécificité, c'est la lettre caractéristique du Namjik, c'est ce O barré.
C'est tout à fait paradoxal. C'est abordé dans l'œuvre de Raynor Ganahl, ici, dans le projet. Raynor Ganahl a fait de sa pratique artistique l'apprentissage des langues. Donc, c'est comme s'il travaillait sa propre connaissance, son propre corps, dans le contexte de sa pratique artistique. Il se montre souvent en performance, par exemple, en mode d'étude. On le voit, lui, étudier les langues. Mais il emploie aussi sa capacité à apprendre les langues, et puis il est tout à fait polyglotte, donc c'est ça qu'il met en scène dans certaines œuvres. Et puis on le voit ici dans l'œuvre Basic Conflicts, parler à peu près 10 de langues, qui parle vraiment dans la réalité. Sur quoi repose la stratégie, en fait? Il a établi 5 phrases liées à des grands thèmes de la société, la nation, la devise, donc l'argent, la religion. Donc voilà, 5 grands thèmes comme ça, où il y a des phrases, des espèces de déclarations nationalistes qui sont énoncées. Par exemple, « Mon pays est le plus confortable, offre la meilleure qualité de vie. Ma devise, mon argent est la plus puissante. » Comme ça, dans 10 langues différentes, on entend la même phrase, et puis ça donne l'impression que finalement, chacune des cultures se déclare comme étant plus forte que les autres ou plus puissante que les autres. Et puis, finalement, comme chacune des cultures déclare la même chose, ben, ça aplatit un petit peu la puissance des paroles, mais ça évoque aussi une espèce de repli sur soi.
Moi, c'est Mélanie Rainville.
Et vous êtes basée à
Bruxelles. Oui.
Mais vous avez une sorte d'accent?
Non.
Je pense...
Non, je suis québécoise d'origine.
Ça fait 5 ans que je suis à peu près 5 ans que je suis à Bruxelles. Mais voilà, évidemment, le fait d'être ici, d'avoir un accent vraiment étranger, c'est quelque chose qui m'est rappelé presque au quotidien. Et puis effectivement, ça a participé à l'envie de travailler sur ce projet. D'ailleurs, on retrouve dans l'exposition plusieurs œuvres qui traitent de l'accent. Quand moi, je suis arrivée ici, et j'ai entendu qu'il fallait que je parle néerlandais, j'ai entendu que, voilà, au niveau de la puissance... Oui, et puis quand est venu le temps chez Actiris de déterminer si j'allais prendre des cours de néerlandais ou d'anglais, bah, j'ai été entraînée vers le néerlandais. Parce que moi, à la base, j'aurais peut-être voulu perfectionner mon anglais, mais finalement, on m'a dit « Non, non, votre anglais est suffisamment bon, vous n'avez pas besoin de le perfectionner, allez plutôt faire du néerlandais. » Donc, on n'a pas besoin de chercher tellement loin. Encore voilà, 4 ans, 5 ans, c'était toujours comme ça. Pas évidemment, Catherine et moi, on n'a pas la même histoire. Moi, personnellement, évidemment, au Québec, on s'est battu pour maintenir la culture francophone. J'y suis sensible depuis longtemps, en fait. Après, je pense que quand on vit à Bruxelles, de toute façon, on est concerné par cette problématique-là.
Nous, en fait, on était partis sur cette idée de la transmission. Et très vite, dans la sélection très exhaustive d'œuvres, on a vu qu'il y avait beaucoup d'œuvres qui parlaient de cette question de la langue comme vecteur d'identité culturelle. Évidemment, moi, c'est vrai que je suis née bruxelloise, mais ce qui me frappe depuis quelques années, c'est bah, évidemment ces croisements entre le néerlandais et le français, mais aussi cette montée très très forte de l'anglais. Qui est parlé un peu dans tous les milieux, même à l'école de mes enfants. Donc, on n'a plus simplement deux langues, enfin, en tout cas, à Bruxelles, on en a trois. Et d'ailleurs, j'avais entendu Eric Corain sur cette question des langues qui parlait aussi, justement, non plus de l'augmentation du néerlandais chez les francophones ou vice-versa, mais vraiment de cette troisième langue qui apparaissait aussi, langue pratiquée, en tout cas... à Bruxelles. Donc, il y a vraiment un changement aussi linguistique. Et puis, bon, ben voilà, on voit aussi au niveau politique au sein même de la Belgique qu'il y a certains nationalismes appuyés au départ aussi d'une langue, mais d'une langue qui est porteuse de culture aussi. Donc, c'est toutes ces questions, évidemment, qui nous ont intéressés. De creuser ici. Bon, évidemment, en sens plus large, de manière plus internationale. Ici, on ne s'est pas penché stricto sensu sur la question de Bruxelles comme ville internationale, c'est vraiment ça, ou comme Belgique, parfois un peu séparée, ou en tout cas qui a du mal parfois un peu à vivre ensemble, entre deux cultures avec des langues... différentes, mais qui se rejoignent évidemment sur tellement de choses. C'était vraiment pour ouvrir aussi ce débat, pour ouvrir cette réflexion, pour voir que finalement, lié à la globalisation, le monde change, pas que dans notre ville, pas que dans notre pays, mais à l'échelle du globe, et que ces langues s'hybrident aussi, elles se transforment. On a une œuvre dans l'exposition où c'est un artiste d'origine indienne et kényane qui connaît l'anglais, il vit aux États-Unis, mais il apprend l'anglais avec justement les accents, on parlait des accents, mais avec l'accent indien ou kényan qu'il aurait eu s'il avait appris cette langue dans son pays d'origine. Puisqu'à ça aussi, il y a des langues ben, qui en fait sont parlées différemment dans le pays où elles se trouvent. Donc ça, c'est aussi des questions sur justement ces sortes de métissage de langues qui est assez intéressante, qui font vivre aussi les langues qu'il était bon de noter aussi dans cette exposition, tout comme leur extinction. Parce qu'en fait, on parle beaucoup d'espèces animales, végétales en voie de disparition, mais on parle très très peu de ces langues en voie de disparition. Il y en a énormément. D'ailleurs, il y a deux œuvres dans l'exposition qui font référence à cette extinction massive, presque de langue. Une œuvre plus historique, on va dire, c'est l'œuvre de Suzanne Hiller, The Last Silent Movie, qui est composée une installation sous deux formes, celle d'un film et celle de gravure, qui reprend en fait 24 extraits de langues qui soit ont complètement disparu, soit sont en voie d'extinction. Donc Suzanne Hiller est anthropologue de formation, puis est devenue par la suite artiste. Et on sent quand même cette volonté de recherche, d'identification culturelle. Et donc on a été dans plusieurs centres de linguistique, beaucoup d'universités, pour essayer de collationner différents fragments de voix de ces langues, soit disparues, soit comme témoignage de langues qui sont en train de disparaître. Et en fait, ce dernier film muet est très parlant, en fait, puisqu'il n'y a pas d'acteur, c'est juste des locuteurs. On entend parler différentes personnes. Ça peut être des monologues, ça peut être des dialogues, ça peut être des chants, ça peut être des chœurs. Donc, c'est différentes possibilités aussi d'expression de la voix qui transmettent ces cultures, puisque certains parlent de leur foi, certains parlent de leur culture, d'autres parlent de quelques mots qui subsistent encore à leur mémoire dans une langue qu'ils ne connaissent quasi plus. Ces timbres de voix, ces intonations font passer énormément de choses, bien plus qu'une image. Et les gravures, alors là, sont les quelques soubresauts graphiques d'une phrase passée à l'oscilloscope, donc qui redonne finalement les différentes intensités du son comme un élément tangible, alors que finalement la voix, elle disparaît une fois qu'elle est prononcée.
Marc Buchy.
Moi, en tant qu'artiste, de façon générale, je travaille beaucoup sur la question de la connaissance et du savoir, la transmission d'informations, la circulation d'une connaissance. Je travaille avec des gens qui font des choses pour moi, je fais des choses pour eux, ou ce genre de choses. Et voilà, la question de la disparition d'un savoir, je trouve ça assez intéressant. Comment s'en saisir en tant qu'artiste? Donc voilà, les langues en voie de disparition, je me suis beaucoup renseigné. Il y a pas mal d'artistes qui ont travaillé ici, comme on peut le voir dans l'exposition. Mais ce qui me saisissait, c'est que dans les médias, en général, on parle toujours des disparitions des espèces vivantes, des animaux, des plantes. Mais ça, c'est quasiment facile à sauvegarder. Enfin, je veux dire, on les met sous cloche et puis ils vivent, on recrée un environnement. Bon, c'est jamais idéal, mais on sait à peu près faire. Mais un savoir humain, s'il n'est pas porté par un esprit et s'il n'est pas pratiqué, bon, il peut être dans un livre, mais ça devient un livre d'une langue morte. Ça meurt si ça meurt avec un corps et un esprit. Donc voilà, comment est-ce que je me saisissais de ça en tant qu'artiste? Et donc j'ai décidé d'aller faire ce geste, d'aller apprendre une langue en voie de disparition. Pour moi-même l'incarner, pour ce moment d'échange, donner une sorte de temps de mémoire, temps de cerveau disponible d'une certaine façon, à une connaissance. Et puis après, notamment ce moment où je retransmets moi-même au public. Donc je ne sais pas s'ils apprennent quelque chose pendant ce bref quart d'heure de performance, mais en tout cas, voilà, il y a la possibilité d'utiliser leur cerveau pour maintenir un langage ou des sonorités qui, sans cette transmission humaine et sensible, seraient complètement vouées à disparaître.
Et alors, l'autre œuvre, c'est Marianne Muspelard, c'est une artiste qui est née en 1988, française, si je donne sa date de naissance, puisque c'est important dans l'œuvre, puisque c'est le point d'ancrage de cette installation qui s'appelle Bibliothèque des Silences. Et cette bibliothèque, en fait, est réalisée chaque fois in situ. C'est-à-dire qu'ici, en fait, vous vous retrouvez dans une pièce et si vous placez au centre de cette pièce, vous avez comme une sorte de map-monde inversé. C'est-à-dire qu'elle a regroupé toutes les langues disparues, mais par rapport à leurs coordonnées GPS. Et donc, on sent vraiment des régions où se concentre finalement la disparition de ces langues, notamment l'Australie.
Catherine Anquinet.
On se retrouve finalement au sein d'une map-monde qui nous fait apparaître des choses qui sont en voie de disparition, qui ont disparu. Et c'est localisé de manière géographique avec le nom de la langue qui a disparu et depuis combien de temps. Et donc elle a ancré ça à partir de sa propre date de naissance, puisque c'est finalement de nouveau cette histoire individuelle. Eh bien, quand on est, les premières choses pour entrer en contact avec l'autre, c'est la langue, la communication, c'est la langue maternelle aussi, la transmission, mais aussi la transmission vers l'autre. À partir du moment où elle apprenait une langue, d'autres étaient en train de disparaître.
La question de la technique et du savoir est très intéressante. Avec aujourd'hui l'externalisation de la mémoire qui est très très forte sur nos smartphones, qui permet de contenir une somme incroyable de données, mais qui crée aussi de l'oubli d'une certaine façon, par l'oubli du corps, l'oubli du geste, l'oubli d'un mode de réflexion, etc. Donc ça c'est très intéressant aussi, comment se place la technique dans la mémoire et dans l'esprit humain et dans l'activité humaine en général. Vous avez oublié comment c'était la vie avant Internet. Oui, c'est vrai qu'on a tendance à dire ça, mais même les jeunes générations. En fait, j'ai appris à lire sur mon ordinateur. Sur un ordinateur, mon père m'avait mis devant... C'est un peu une histoire familiale qui ressort de temps en temps, mais mon père m'avait mis devant un petit programme très simple où j'ai appris les lettres, à reconnaître les lettres et mes premiers mots sur un tout vieil ordinateur. Moi, je suis né en 88, donc ça devait être tout début des années 90. Donc voilà. Après, ça ne m'empêche pas de lire encore plein de livres papier et de préférer lire sur papier. Mais il y a eu cet apprentissage par l'écran et par un logiciel automatique. Donc ça, c'est déjà intéressant. Je pars bientôt, j'ai la chance d'être accueilli en résidence en Palestine pour le mois de novembre et décembre. C'est pour un projet très différent qui parle aussi de transmission et de recréation de gestes et de souvenirs, de personnification de souvenirs, puisque j'ai une de mes œuvres s'appelle N2H4 et c'est une maison d'édition de guides de voyage en fait, où je demande à des gens d'écrire leurs souvenirs sur une ville, mais de façon qui puisse être réactivée. Donc par rapport à un guide de voyage traditionnel qui est souvent fait avec des agences de tourisme ou voilà, des choses très abstraites en fait. Et là, c'est des choses qui ont été vécues, une façon d'explorer la ville, donc ça se rapproche de la psychogéographie, la dérive, etc. Donc des choses qui ont été vécues, qui sont transmises comme ça de façon assez factuelle, possible à recréer, et que des gens vont potentiellement lire et recréer eux-mêmes. Donc il y a aussi cette transmission d'une expérience du réel et des souvenirs dans ce projet. Donc j'ai été invité par la A.M. Katan Foundation à Ramallah pour écrire un guide sur Ramallah avec les populations locales. Bien sûr, ce qui les intéresse, c'est que Ramallah, ce n'est pas une ville particulièrement touristique, c'est un endroit assez compliqué. Et voilà, comment va se passer mon séjour, ma découverte de la ville et les rencontres au quotidien. Et comment je vais le mettre en place pour le transmettre à des potentiels lecteurs de ce guide. Marc Buchy. Alors moi, je suis français, mais j'habite en Belgique depuis plus de 13 ans et j'habite à Bruxelles.
Babel, les barrières de l'antique. Alice Elbe, 31 boulevard de Waterloo, jusqu'au 14 décembre, Babel.
Les barrières de l'antique. Je faisais une pièce en bois assez complexe avec des artisans récemment, des ébénistes. Et puis on travaillait la pièce tous ensemble, et puis ils n'arrêtaient pas d'employer cette expression, les barrières de l'antique. Et en fait, c'est une expression, c'est des boulistes, donc ils ont fait l'école boule, donc c'est des ébénistes assez appliqués. Et c'est une expression qui dit toutes les barrières techniques qu'impose l'ancien. Dans la fabrication. Par exemple, il faut faire un pied de telle manière, ou il faut poncer de telle manière, ou il faut racler la pièce de telle manière. Et du coup, ils disent attention aux barrières de l'antique. C'est qu'à un moment, il faut se méfier de ces barrières-là, et des fois, ça ne fait pas vraiment de sens d'aller dans ce sens-là. Autant essayer de contourner les barrières de l'antique. Je trouvais cette expression assez amusante, parce qu'en même temps, elle a une valeur très concrète, comme ça, dans le travail. Puis en même temps, il y a un truc un peu très symbolique.
À la Verrière Hermès, à Bruxelles, au 50 boulevard de Waterloo, jusqu'au 8 novembre, les barrières de l'antique.
Une tentative de ma part d'essayer de prendre en charge la question écologique dont on parle beaucoup aujourd'hui. Comment on peut faire du développement durable, voilà, ce sont des questions très importantes et qu'il y a toujours un paradoxe dans l'art qui est que finalement beaucoup d'artistes traitent ces sujets sur l'urgence écologique de manière un peu presque parfois catastrophée ou bon, qui est une véritable urgence, mais avec toujours un paradoxe qui est que bah, voilà, quand on fait de l'art, on produit des œuvres en plus et que souvent d'ailleurs c'est dénoncé hein, avec parfois d'ironie dans la presse, beaucoup d'artistes font des œuvres, des glaces qui fondent, etc., pour dénoncer, mais en fait, ils sont venus en avion et qui ont participé eux-mêmes, donc nos activités, qui participent eux-mêmes à la destruction des environnements, alors que même qu'on entend dénoncer les abus de cette destruction. Et que moi, je pense personnellement que j'ai pas de réponse particulière à donner à ces contradictions, moi-même, j'en fais partie, mais quand même, cette question, qui est une question sociétale importante, politique importante et sociétale, hein, dont vous êtes aussi confrontés dans vos métiers, on l'est tous aujourd'hui de toute façon.
À la Verrière Hermès à Bruxelles, jusqu'au 8 novembre, les barrières de l'antique, avec Camille Blatrix et Guillaume Desanges.
À la base, j'avais un peu une idée autour d'un labyrinthe. C'était l'idée d'entrer dans un espace avec un début et deux fins, et puis de s'y perdre un petit peu, et en même temps, du coup, d'avoir que ce labyrinthe ait une valeur un peu initiatique, comme ça. Donc on peut voir que quand on rentre, il y a une première marqueterie qui dit Incipit Vita Nova, qui est le livre de jeunesse de Dante, et que lui, il imaginait, incipit vita nova, ça veut dire ici commence la vie, et que lui, il imaginait comme ici commence la vie renouvelée par un amour, un petit peu comme si la vie commençait vraiment une fois qu'on avait découvert ce que c'était que le sentiment de l'amour. Et du coup, je trouvais que ça, comme introduction, je trouvais ça intéressant. Et puis après, du coup, les marqueteries grandissent de plus en plus. Et on peut voir deux objets se déployer. D'un côté, un haricot. Et de l'autre côté, un pétale de rose et un papillon. Alors pourquoi? Parce que ça a des valeurs symboliques un peu larges, mais que je laisse ouvertes. Et j'aime bien l'idée qu'on grandisse avec ces objets dans le labyrinthe. Et puis qu'après, on sorte, grandi ou pas, de ces expériences. Et l'expo est jalonnée de petites sculptures, des petits ready-made d'objets que j'ai depuis que je suis petit, que j'avais dans une boîte, comme mon appareil dentaire, une balle de tennis sur laquelle j'avais dessiné un visage et ma trousse d'écolier. Et je les ai appelés trauma, mais de manière un peu cynique, comme si c'était un peu si ces détails-là, alors que moi je peux pas prétendre avoir été traumatisé, j'ai eu une vie tout à fait correcte dans un endroit, dans des villes urbanisées, et voilà. Et j'aime bien, comme on a tendance à aller chercher dans son passé ce qui a pu nous pousser à devenir ce qu'on est, j'aime bien aller chercher ces objets qui seraient faites en traumatiques, comme l'appareil dentaire, la trousse d'écolier ou la balle de tennis, du jeu solitaire d'avoir une balle de tennis.
Ma décision a été non pas d'essayer de travailler avec des artistes qui traitent ces questions écologiques ou qui dénoncent un état de fait aujourd'hui, mais plutôt de regarder d'autres manières de faire.
Guillaume Desanges.
D'autres relations aux matériaux, d'autres relations aux objets. Et ça tombait bien parce qu'en effet, il y a une génération d'artistes, plutôt des jeunes artistes, ne traitent pas directement de questions écologiques en dénonçant des choses, mais par contre, ont une relation aux matériaux, un retour à certaines formes artisanales, des techniques traditionnelles. On a vu beaucoup dans l'art contemporain dernièrement, des choses qu'on voyait moins avant, qui étaient beaucoup de céramique, par exemple, le travail du tissu, du textile, la marqueterie, le bois. Et c'était intéressant parce que ce retour, on va dire, à des formes artisanales n'était pas, comme certains artistes parfois le font, de manière ironique ou avec des petits clins d'œil un petit peu, mais vraiment avec une sincérité, une sorte de retour à une attention particulière apportée aux matériaux et aux objets.
Et donc voilà, toute l'expo elle aussi entre des trucs comme ça, symboliques, personnels, un peu lourds, un peu lourdingues, et puis en même temps des symboliques beaucoup plus larges, comme le papillon et le haricot. Voilà, parce que j'aime bien quand l'art aussi entre symbolique très général et puis petits détails assez personnels. Et toute l'expo se termine par une pièce que j'ai fait en collaboration avec mon père. Alors là, vous pouvez voir, il y a cet appareil dentaire qui fait une voûte, un peu. Il est de la voûte avec mon père, on a travaillé ensemble une autre voûte parce qu'il est charpentier de marine et on a travaillé une voûte.
L'autre chose qui m'intéressait, c'est aussi de prendre la question écologique, non pas uniquement sur des objets particuliers, des matières, un retour à l'environnement, la nature, mais aussi de penser dans nos métiers comment on peut, on va dire, contester des formes de domination.
Un centre que j'imaginais pareil comme une espèce d'abri à la sortie du labyrinthe.
Babel, les barrières de l'antique. Alice Elbe, 31 boulevard de Waterloo, jusqu'au 14 décembre, Babel. À la Verrière Hermès à Bruxelles, au 50 boulevard de Waterloo, jusqu'au 8 novembre, les barrières de l'antique.
C'est-à-dire la domination de l'homme sur la nature. C'est une des questions qui se posent. C'est aujourd'hui, on est dans des régimes comme ce qu'on appelle l'anthropocène, en deux siècles. On a modifié la planète encore plus que ce qu'on a appelé des périodes qui ont duré des milliers, des millions d'années. Donc ce qu'on a appelé l'anthropocène, c'est la marque de l'humain récent, depuis deux siècles, c'est-à-dire depuis la révolution industrielle, a marqué la Terre autant qu'elle a été marquée des fois par des périodes beaucoup plus longues de glaciation, etc. Et donc ce qui m'a intéressé, c'était ces formes de domination de l'homme sur la nature, et l'idée c'est peut-être de contester les formes de domination en général, et notamment dans l'art, ce qui est mon secteur, l'art contemporain, de tenter de montrer à la fois des choses très différentes et de contester des dominations de l'art sur l'artisanat, par exemple, ou de l'art militant sur les beaux-arts, ou de contester, par exemple, d'autres formes qui seraient un peu méprisées parce que simplement elles sont manuelles, elles sont moins intellectuelles. Voilà. Et moi, l'idée, c'était d'essayer de travailler avec des artistes qui, finalement, n'ont pas propose de réhabiliter d'autres formes, mais qui sont notamment une indifférence aux objets.
Babel, avec Catherine Anquinet, Mélanie Rainville, Marc Buchy, Myriam Provost. à la verrière Hermès à Bruxelles, jusqu'au 8 novembre, les barrières de l'Antique, avec Camille Blatrix et Guillaume Desanges. Babel, les barrières de l'Antique, par Thierry Chenicaud. Le monde invisible est soutenu par la Fédération Wallonie-Bruxelles, secteur des arts plastiques.
Qu'il y a de palais ici, un hors lieu, un hors loi, si loge et si souscrit, et sujet et foi, je ne doute pas.
Que ce samedi 12 octobre à 14h, l'ICELP s'associe avec la Verrière pour une visite de leurs deux expositions. Cet événement est gratuit. Le point de rendez-vous est à 14h à la Verrière. Ce sont les curateurs qui assureront la visite.